Comme tous les vendredis, les scientifiques se retrouvent dans le club des têtes au carré, au menu de nos discussions cet après-midi. Lorsque les oiseaux avaient des dents, c'était il y a plus de 110 millions d'années. L'ouverture d'un nouveau musée scientifique à Lyon, un dicopathe atteint du virus des dictionnaires et puis un géologue dingue de la Nouvelle-Zélande. Et puis à la une de la science aujourd'hui, les mystérieuses bouffées de méthane détectées par le robot Curiosity sur la planète Mars. D'où vient ce gaz? Est-il synonyme de vie? C'est la question qui a agité les médias scientifiques toute cette semaine. On fera le point avec le planétologue Pierre-Yves Mélin, qui est co-auteur de cette découverte. Sur tous ces sujets, bien sûr, vous nous rejoignez avec vos messages et vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Violaine Ballet réalise ce club qui a été préparé par Anne-Cécile Perrin, Olivier Monod et notre stagiaire de 3e, Yumi Rigaud.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Jean Pruvot et Arnaud Guérin, bonjour.
Bonjour
à tous les deux. Jean Pruvot, vous êtes atteint par une maladie très rare, qui est donc une dicopathie aiguë. À quel moment sont apparus les premiers symptômes?
Oh, très jeune, en rencontrant un grand professeur qui était Bernard Quimada et qui m'a transmis le virus. Et alors maintenant, j'essaie de le transmettre le plus possible.
C'est ça, vous ne cherchez pas du tout à vous guérir, effectivement.
Non.
Vous êtes un peu le Don Juan des dictionnaires, d'ailleurs, hein, puisque ce sont vos conquêtes qui sont maintenant au nombre de 10 000, c'est comme ça que vous appelez chacun de vos livres?
Oui, oui, c'est vrai que j'ai une affection amoureuse pour chacun de ces dictionnaires et qui remplissent 150 mètres carrés sans papier peint. Mais
c'est vrai.
C'est vraiment un grand plaisir que de partager tout ça et d'entendre bruire ces feuilles.
Vous publiez Le Dico des dictionnaires, histoire et anecdotes chez Jean-Claude Lattès. On va en parler bien sûr avec vous. Et vous avez apporté votre guitare.
Oui, alors
vous êtes également musicien.
Oui, c'est vrai que je viens de raconter les mots de la musique, une guitare à la main dans une jolie soirée.
C'est ça.
Et donc, comme il y a une petite
chanson. Et ça,
chanson,
c'est su.
Voilà.
Et donc, on vous a demandé de venir avec votre guitare. On verra ça tout à l'heure. Arnaud Guérin, vous êtes géologue, photographe professionnel. Vous publiez un beau livre sur la Nouvelle-Zélande, un pays où les moutons sont rois.
Où les moutons sont rois.
Oui.
Au-delà de l'image d'Épinal, on s'aperçoit que c'est un haut lieu de la biodiversité à l'échelle de la planète et qu'au départ, les mammifères étaient extrêmement peu présents.
Oui.
C'est un monde d'oiseaux, c'est une terre tout à fait singulière avec des volcans, avec les montagnes qui grandissent le plus au monde à l'échelle de la planète. Et puis,
oui.
Le royaume des albatros, vraiment une émotion absolument incroyable.
Oui, un pays où la nature a donc isolé en fait de tout. Quasiment.
C'est un isolat géographique. La tectonique des plaques a bien fait son travail. Ça fait très longtemps, plus de 80 millions d'années que c'est isolé.
Ouais.
Et donc, la nature a évolué toute seule et a donné ce qu'on appelle la biodiversité, c'est-à-dire ce que j'aime appeler les trésors du vivant, d'une manière absolument incroyable, avec une palette de formes qui est incroyable et qui m'intéresse en tant que scientifique et
absolument.
En tant que photographe.
Voilà. Des oiseaux, des moutons et des bactéries, d'ailleurs, dans des milieux absolument splendides. On va en parler avec vous dans quelques instants. Et puis les oiseaux, on en parlera également dans quelques minutes autour d'un mot, Jean Pruvot, que vous connaissez évidemment, c'est l'édentulisme.
Oui, alors l'oiseau, c'est quelque chose de curieux parce que c'est le mot le plus petit contenant le plus de voyelles, très curieusement.
Ah, c'est vrai ?
Ben oui, il n'y a qu'une consonne en fait. Et par ailleurs, c'est le seul mot dont aucune lettre ne se prononce vraiment, puisqu'on ne prononce pas O, ni I, ni SE, mais E, E, A, U. Donc c'est un mot un peu curieux, on ne s'étonne pas qu'il soit de la fin des temps ou du tout début des âges.
Et l'édentulisme, donc, c'est la perte des dents,
oui,
en l'occurrence. Voilà, une nouvelle étude est parvenue à dater précisément l'époque où les oiseaux ont perdu leurs dents, c'était il y a 116 millions d'années. Le paléontologue Antoine Louchard sera en ligne de Lyon avec nous. Allez, on se retrouve dans quelques minutes. Les messages des auditeurs, franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. À la une de la science aujourd'hui, une drôle de surprise sur la planète Mars avec des émanations de méthane. Serait-ce le signe de la présence d'organismes vivants?
Monsieur le Président, c'est un jour historique.
La preuve de la vie extraterrestre. Le peuple sera ravi.
Notre seul dilemme est de savoir si on veut prendre d'assaut les flashs d'infos ou si on vise le prime time.
On s'en fout de la presse. C'est une situation confidentielle. Faut l'estampiller top secret et se placer au plus vite en état d'alerte 4.
Voilà le clin d'œil de Mars Attack. Y a-t-il eu de la vie sur Mars? Cette question justifie toute l'exploration de la planète rouge. Dernière étape en date, la publication dans Science cette semaine d'un article relatant l'enregistrement d'émanations sporadiques et mystérieuses de méthane dans l'atmosphère martienne. Bonjour Pierre-Yves Mélin.
Bonjour.
Vous êtes avec nous en ligne depuis Toulouse. Vous êtes planétologue à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie du CNRS. Et vous êtes co-signataire de cette étude dans Science. Expliquez-nous exactement ce que le robot Curiosity a donc observé.
Alors, l'instrument SAM à bord du robot Curiosity, qui est maintenant à la surface de Mars depuis un peu plus de 2 ans, a effectué la première mesure au sol de, donc d'un méthane qu'on appelle, d'un gaz qu'on appelle le méthane. Et donc, il a confirmé des mesures qui avaient été obtenues depuis d'autres mesures par des satellites ou des observations terrestres. Et donc, en fait, ce qu'il a montré, donc, il a confirmé la présence de méthane en faible abondance dans l'atmosphère de Mars. Mmh. Mais ce qui est surtout surprenant, c'est que pendant une période de 60 jours, sur cette première année d'observation, il a montré qu'il y avait eu un saut, comme vous disiez, une bouffée de méthane, qui avait fait augmenter la valeur d'un facteur 10.
Oui.
Et ça, on a beaucoup de difficultés à le comprendre jusqu'à présent.
Alors Pierre-Yves Mélin, si je me souviens bien, justement, l'année dernière, il y avait eu une publication nous disant que justement, il n'y avait pas de méthane sur Mars. Donc ça change vite la science, hein ?
Et voilà. Et donc en fait, effectivement, au cours des 5 premières mesures qui avaient été effectuées, les abondances obtenues étaient tellement faibles, elles étaient plus faibles que les incertitudes sur ces mesures. Donc on avait douché un peu les espoirs qui avaient été soulevés par les observations orbitales ou terrestres, puisque effectivement les abondances étaient très faibles.
Oui, alors c'était également Curiosity qui nous avait donné cette information. Donc qu'est-ce qui s'est passé là finalement en un an pour que tout d'un coup ils découvrent ces bouffées de méthane sur Mars ?
Alors déjà, il a obtenu des mesures plus précises. L'instrument peut fonctionner de différentes manières. Et il a effectué, il a mené des expériences avec un enrichissement en méthane qui lui permet d'augmenter sa sensibilité d'un facteur 20. Et donc, avec ces mesures plus précises, il a confirmé les faibles valeurs qui étaient entachées d'incertitudes jusqu'à présent. Et en plus, sur une certaine période, comme je vous le disais, il a enregistré une augmentation d'un ordre de grandeur de cette concentration.
Alors Pierre-Yves Mélin, la question c'est de savoir d'où vient ce méthane, évidemment, parce que selon les hypothèses, on s'approche précisément des origines biologiques ou pas. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire là aujourd'hui ?
Alors oui, toute sous cet écho là, en relation à l'activité biologique, s'explique par le fait que sur Terre, à peu près 80-90% du méthane est d'origine biologique. Mais bon, il faut savoir qu'il y a aussi quand même une dizaine de pourcents qui est d'origine abiotique.
Oui.
Et donc, sur Mars, on peut se demander, quelle est l'origine de ce méthane. Et donc, alors, dans l'article, l'équipe scientifique reste très prudente et n'avance pas d'explication, ne favorise pas d'explication entre une origine biologique ou une origine abiotique.
Oui.
Par exemple, la valeur de fond, cette faible valeur d'une partie par milliard qui a été détectée, on peut simplement l'expliquer par un ensemencement de la surface de Mars par de la matière organique d'origine exogène. Par exemple, la surface de Mars est bombardée de météorites ou bien elle collecte de la poussière interplanétaire qui est en partie chargée de matière organique. Et à la surface, cette matière organique peut se décomposer par le rayonnement ultraviolet pour donner du méthane. Donc on peut assez facilement expliquer cette faible valeur ambiante du méthane. Ce qui est plus difficile d'expliquer, c'est qu'on ait observé une bouffée de méthane. Alors, observer une bouffée, ça veut dire que, il y a une émanation de méthane assez importante à non loin du robot.
Oui.
Et pourquoi on a du mal à l'expliquer ? C'est parce que tous les modèles de photochimie de l'atmosphère de Mars prédisent que la durée de vie du méthane dans l'atmosphère de Mars est de l'ordre de 300 ans. Et avec de telles durées de vie, on n'arrive pas à expliquer des bouffées de méthane et des variations spatiales et temporelles aussi importantes.
Donc ça reste un mystère là pour l'instant, Pierre-Yves Mélin, effectivement, ces bouffées de méthane.
Excusez-moi.
Ça reste un mystère donc encore pour vous, ces bouffées de méthane.
Ça reste un mystère. Alors parce que il faut expliquer. Il y a deux mystères en fait. Il faut expliquer le terme source, ce qui a pu produire du méthane aujourd'hui et de manière très localisée, et aussi expliquer pourquoi le méthane peut disparaître dans l'atmosphère aussi rapidement. Enfin, on n'explique ni l'un ni l'autre.
Donc, ça ne répond pas à cette question que tout le monde se pose sur la présence de la vie sur Mars. Hein. On est d'accord là-dessus pour l'instant,
on
effectivement.
Non.
Qu'est-ce qui pourrait
cette réponse-là. Et d'ailleurs, le groupe scientifique de pilotage du programme martien de la NASA reconnaît que vraiment pour répondre à la question de la détection de vie sur Mars,
oui,
vraiment la seule expérience qui pourra le prouver, c'est de ramener des échantillons puisque c'est vraiment que sur Terre qu'on a les moyens analytiques suffisamment précis et puissants pour probablement détecter des formes de vie actuelles ou plus probablement passées.
Et ça, c'est pour quand, alors, précisément, le retour d'échantillons martiens sur Terre, Pierre-Yves Mélin ?
Alors, il y a une première étape de dans ce long programme de la NASA qui va être enclenché en 2020 mm-hmm. avec l'envoi d'un robot très similaire à Curiosity
ouais.
qui va préparer, qui va démontrer la capacité de prélever des échantillons et de les stocker pour un retour éventuel. L'étape suivante, ce sera d'aller éventuellement récupérer ces échantillons et qui auront été sélectionnés avec une instrumentation la meilleure possible pour caractériser l'intérêt à la fois géologique, géochimique, mais aussi bien sûr biologique de ces échantillons.
Arnaud Guérin, vous suivez les aventures martiennes, vous en tant que géologue, j'imagine, régulièrement ?
Oui, d'autant plus que j'avais participé à un programme il y a quelques années avec des géologues martiens dans mon pays d'adoption qui est l'Islande,
oui.
où les gens de la NASA nous avaient envoyé des costumes pour nous mettre en situation, ce qui nous avait fait vraiment rire au départ. Et puis en fait, on s'est retrouvés dans ces scaphandres, dans le désert islandais, qui a beaucoup de similitudes en termes de géologie, d'interaction entre l'eau et le magma. Et en fait, une fois qu'on est au bout d'une demi-heure dans le scaphandre, on se prend vraiment, on croit vraiment être dans un film de science-fiction.
Oui.
C'est une expérience qui est vraiment restée dans ma mémoire.
Merci beaucoup Pierre-Yves Mélin pour ces explications donc, à l'occasion de cette publication, donc, à laquelle vous avez participé cette semaine et qui a été publiée dans Science. Merci beaucoup à vous et bon week-end.
Merci.
Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la Cour de justice de l'Union européenne a autorisé jeudi le brevetage d'ovules activés par manipulation génétique. Une société de biotechnologie britannique avait saisi la justice européenne après s'être vue refuser un brevet sur des cellules souches pluripotentes obtenues à partir d'ovules humains. L'arrêt de la Cour stipule que pour être qualifié d'embryon humain, un ovule humain doit nécessairement disposer de la capacité intrinsèque de se développer en un être humain. Une bonne nouvelle pour la biodiversité en Europe, les populations d'ours, de lynx et de loups sont stables ou en augmentation. Ce résultat est publié dans la revue Science, là aussi, provient d'une compilation de données par 76 experts de la faune sauvage dans 26 pays. Rien n'est encore gagné pour la cohabitation entre l'homme et les grands carnivores. En France, Ségolène Royal s'est opposée à un nouveau lâcher d'ours dans les Pyrénées et a assoupli les règles d'abattage des loups. Et puis on reste chez les grands prédateurs. Écoutez ce qui arrive lorsqu'un scientifique du National Geographic voit apparaître sur l'écran de sa caméra placée à 211 mètres de profondeur à l'extrême nord de la Russie, un requin du Groenland de 2 mètres de long.
Holy 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 it's a shark. Holy oh my god, it's a shark.
Voilà, il est très content visiblement ce jeune scientifique qui explique qu'il regardait donc sa caméra depuis 3 heures sans avoir vu le moindre signe de vie lorsque le requin est apparu. Cette espèce est très mal connue, a été rarement observée. Les spécialistes pensent qu'ils sont plutôt lents et souvent aveugles ces requins avec un mode de prédation qui reste un mystère. Cette vidéo dans son intégralité est à découvrir sur le site de la Tête au Carré et en lien sur le National Geographic. Allez, des oiseaux avec des dents, un dicopathe, un voyage en Nouvelle-Zélande, un nouveau musée scientifique à Lyon, c'est dans un instant dans le club des Têtes au Carré.
Ça marche ? Ok. Betty ? Je l'ai fait le plus léger possible, j'interviens pas.
Tu n'as pas sommeil, tu fumes, tu veilles, et tout est écorché.
Pas tragique, en réalité, c'est une chanson de sensibilité pure, à l'os, hein. Mais c'est pas tragique non plus, puisqu'elle va sortir.
La nuit carcérale, tombant sur les dalles, et ce lit glacé. Allez, venez, soleil et sourire sont de l'autre côté.
Aujourd'hui, je chante différemment déjà depuis un moment, mais en plus dans cet album, ce qui lie tous les titres, finalement, c'est la façon de les interpréter, je crois.
Ces murs, ces grillages, ces portes et ces cages, ces couloirs, ces clés. Cette solitude, si dure et si rude, qu'on peut la toucher. Ce rayon de lune, sur le sol allume, visage oublié. De celui que t'aimes, qui tire sur sa chaîne, comme un loup blessé. Betty,
à la limite,
faut pas craquer.
Ça doit encore plus foutre la chair de poule avec l'arrangement que Romain a conçu. Plus de profondeur, Et on est plus avec la Betty dans l'isolation, finalement. C'est une chanson sur la solitude, au fond. Sur l'enfermement, mais... La solitude et l'enfermement, les deux. Obligatoire, légal, admettons. Mais c'est quelque chose comme ça, où on pourrait être agoraphobe, même avec cette chanson. Pas supporter l'extérieur.
Betty, faut pas pleurer. Betty, faut pas trembler. Je sais, tu vas rester là. T'aimerais plus te réveiller, plus jamais rêver. Je te dis je t'aime, mon secours poème, mon second baiser. Tu es ma frangine, juste une féminine que j'avais rimée. Je te donne ma force, mes mots et mes notes pour te réchauffer. Je hais la morale, les prisons centrales, les maisons d'arrêt. Sommeil, je fume et je vais, et j'ai composé une chanson d'amour, une chanson secours pour l'autre côté, pour ceux que l'on jette dans les oubliettes, dans l'obscurité, pendant que les gens dorment au fond du conforme sans se réveiller.
Sur France Inter, je vous présente les titres de mon nouvel album, Acoustique. Et n'oubliez pas, on se retrouve ce soir dans Partons en live avec André Manoukian. C'est à partir de 21h.
Tu sais, on se retrouvera là, ailleurs, en plein soleil.
Voilà, magnifique Betty avec Bernard Lavillier à l'occasion de sa journée spéciale sur Inter. Notez qu'il sera également l'invité de Charline Van Anacker à 17h dans Si tu écoutes, j'annule tout.
La tête au carré. Le club.
Oh, ça fait du mieux ça.
Avec Mathieu Vidal.
On va vous escorter, c'est plus pédant.
On les escorte, on y va, on les escorte,
allez. Sur France Inter.
Allez, dans notre club, cet après-midi, on vous emmène en Nouvelle-Zélande, dans l'appartement d'un collectionneur de dictionnaires au musée des Confluences à Lyon et dans le passé des oiseaux. Vous nous rejoignez, vos messages en direct franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Et donc, nous filons pour commencer à Lyon avec nos premiers invités. À ma gauche, le paléontologue Antoine Louchard, bonjour.
Bonjour.
Et à ma droite, conservateur du patrimoine et responsable des expositions et des collections au musée des Confluences de Lyon, Nicolas Dupont, bonjour à vous.
Bonjour.
Antoine Louchard, on va commencer ensemble. Vous travaillez donc dans l'équipe paléogénomique de l'ENS de Lyon. Il y a quelques jours a été publiée une étude dans la revue Science qui nous apprenait que l'ancêtre commun de tous les volatiles actuels aurait perdu ses dents il y a 116 millions d'années, illustrant donc le phénomène de l'édentulisme, la perte généralisée des dents. Ça veut dire tout simplement que les premiers oiseaux avaient des dents ?
Tout à fait, oui. Les premiers oiseaux avaient des dents et en fait, la plupart des oiseaux avaient des dents au temps des dinosaures, jusqu'à la disparition de tous les dinosaures, il y a 66 millions d'années.
Donc ces oiseaux avec des dents sont les descendants des dinosaures carnivores, c'est ça? On peut le dire comme ça ou pas?
Oui, ben, c'est l'hypothèse forte hein, actuellement, hein, même si ça reste toujours des hypothèses, il faut faire attention de placement des premiers oiseaux par rapport à leurs plus proches parents, c'est qu'ils dérivent donc d'un groupe de dinosaures qu'on appelle les théropodes, et qui eux-mêmes avaient des dents. Et donc, ces premiers oiseaux avaient des dents, mais pas tous. En fait, il y avait déjà certaines lignées d'entre eux qui sont plus ou moins éloignées des oiseaux actuels, qui avaient déjà perdu à peu près 4 ou 5 fois indépendamment la denture.
Donc il y a une cohabitation, à quelle époque d'ailleurs exactement, pour le coup, des oiseaux avec et sans dents ?
Donc pour toute cette période où il y avait encore des dinosaures, hein, donc, en partant du premier oiseau le plus ancien connu, qui est toujours Archaeopteryx, donc c'est-à-dire entre 146 millions d'années et 66 millions d'années.
Antoine Louchard, comment les scientifiques ont procédé justement pour dater aussi précisément la perte des dents des oiseaux modernes ?
Alors voilà, donc là, cette fois, ils se sont intéressés vraiment à l'ancêtre des oiseaux modernes et uniquement, donc pas de ces autres groupes. Alors comment ils ont fait ? Donc ils ont en fait une très grosse étude, un consortium international qui a étudié le génome de 48 espèces d'oiseaux actuels, qui bien dispersées pour représenter chaque ordre et chaque famille importante des oiseaux actuels, qui, ne l'oublions pas, comporte 10 000 espèces à peu près aujourd'hui, donc c'est quand même... 48 génomes d'espèces actuelles, c'est un très très gros travail en fait qu'ils ont fait. Et ça leur a permis de, alors d'une part, de retracer toutes les relations de parenté de tous les ordres d'oiseaux, ce que jusqu'ici était très problématique. Et puis dans le, alors pour ce qui est particulièrement de la, qui est un des articles de cette série, de la perte des dents chez les oiseaux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé les gènes de l'émail et de la dentine, les gènes qui, chez les vertébrés, permettent de fabriquer les protéines de l'émail et de la dentine, des dents, donc. Et bon, on sait que les oiseaux donc ont perdu la capacité de faire des dents. Jusqu'ici, on ne savait pas trop quand, parce qu'à partir des fossiles, on pouvait dire entre 125 et 66 millions d'années. Et à partir du moment où, en fait, ils ont perdu la capacité de faire des dents, au cours de leur développement, pour une raison qui est encore pas très bien élucidée d'ailleurs, enfin il y a plusieurs hypothèses, à partir de ce moment-là, les gènes des protéines de l'émail et de la dentine sont devenus inutiles en fait. Et donc, ils ont accumulé des mutations au cours des millions d'années et des dizaines de millions d'années sans que la sélection naturelle ne joue dessus. Donc ces gènes, soit chez les oiseaux d'aujourd'hui, ont disparu, soit, pour la plupart, existent encore, mais sont complètement détériorés par les mutations. On appelle ça des pseudogènes. Et ce qu'ils ont regardé, c'est le taux de mutation sur chacun de ces quelques gènes, et dans chacune des lignées qu'ils ont étudiées, et donc avec des appuis de méthodes statistiques, hein, ils ont pu remonter dans le temps, grâce à des hypothèses de départ sur... sur le taux de mutation, justement, dans le temps.
Et donc, c'est la génomique qui a vraiment permis cette datation très précise. Hein.
Oui, oui, c'est vraiment la génomique. C'est le résultat de leur étude.
Voilà.
Donc, en regardant l'amoncellement de mutations, en fait, hein, sur chacun des oiseaux qu'ils ont étudiés, et les taux de mutation, et puis en faisant des croisements, des tas de croisements qui rendent leurs résultats très robustes, ils sont effectivement remontés dans le temps de ces mutations accumulées sur ces gènes-là, et sont arrivés à 116 millions d'années, donc ce qui, comme je vous disais, est beaucoup plus précis que ce qu'on pouvait voir sur les fossiles.
Grâce donc à la génomique, on a pu parvenir à ce résultat. Nicolas Dupont, au musée des Confluences de Lyon, est-ce qu'à partir de demain, puisque ce sera l'ouverture, on pourra voir des oiseaux dans votre musée scientifique, par exemple ?
Oui, bien sûr, et en effet, en plus, les deux interviews se répondent un petit peu, puisque le musée des Confluences qui ouvre en effet ses portes, je dirais dès ce soir même au public lyonnais, traite de plusieurs sujets, dont celui de l'origine du vivant. Donc c'est une de nos salles du parcours permanent, donc je suis très heureux d'avoir entendu l'interview précédente.
Voilà, donc ça sent encore la peinture évidemment chez vous, avant l'inauguration ce soir et puis l'ouverture effectivement au public. Quel est l'esprit de ce musée ? Alors expliquez-nous un petit peu, parce que j'ai l'impression qu'on va découvrir une nouvelle forme justement de muséographie aussi chez vous.
Oui, tout à fait. Alors déjà, on est parti d'une collection assez incroyable, riche de plus de 2 millions de spécimens, provenant de l'ancien musée Guimet et d'un ancien muséum, donc des objets de sciences naturelles et des objets très importants dans le domaine de l'ethnographie. Et en effet, on va proposer aux visiteurs déjà des questions assez complexes et philosophiques concernant, comme je l'ai dit, l'origine du vivant, la relation de l'homme avec son environnement, l'organisation des sociétés et une question là aussi philosophique, l'homme face à la mort, face à l'au-delà. Et c'est vrai qu'on va proposer vraiment, et je l'espère en tout cas, des surprises en termes de scénographie.
Ouais, alors comment vous l'avez pensé justement, exactement ? Est-ce qu'on aura des salles thématiques très précises comme on a l'habitude de voir dans les musées, ou est-ce que vous êtes amusé aussi à mélanger un petit peu les choses ?
Alors en effet, on a mélangé les choses, puisque ben, le musée des confluences, on joue sur ce mot de la confluence, bien sûr, une confluence géographique, mais aussi une confluence des savoirs. Et aujourd'hui, les sciences progressent justement parce que on abolit, je dirais, les frontières entre les spécialités. Et le musée voulait être le reflet de ce nouveau visage, je dirais, des sciences. Et chaque thème a été traité par des scénographes différents. Donc c'est vrai que lorsque le visiteur pénètre dans une salle, puis dans la deuxième, à chaque fois on lui propose un univers différent, et puis des chocs de collection sur la question des origines, par exemple. Bien sûr, on parle de cette histoire de l'évolution, et puis en parallèle de ces objets qui sont des fossiles, des espèces naturalisées, nous avons des objets aborigènes, inuits, indiens, pour montrer comment ces différentes sociétés ont pu imaginer la question de l'origine du vivant et de l'origine du monde.
Donc ce sont 2 millions d'objets, c'est ça, qui sont réunis au musée ?
Alors, on ne présente pas 2 millions d'objets, bien sûr, mais dans nos réserves, en effet, nous avons 2,2 millions d'objets, pour être précis. Et sur le parcours permanent et dans les expositions temporaires à l'ouverture, ce seront environ 5000 objets.
Oui, donc ce sont des objets qui vont du dinosaure à la coiffe amérindienne, à un accélérateur de particules, à de l'art chinois, des femmes néandertaliennes, des momies de chats, des collections de colibris, des tigres, des girafes. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts, effectivement. Et vous allez vous amuser à mélanger tout ça. Est-ce que vous allez aussi ressortir régulièrement de nouveaux objets ? Comment on tourne justement quand on possède autant de choses à montrer au public ?
Alors d'une part, dans le parcours permanent, il va y avoir des rotations d'œuvres liées, je dirais, plutôt à des problématiques de conservation des collections, donc des œuvres fragiles, par exemple, des parures amérindiennes en plumes, on va les changer régulièrement tous les 3-4 mois. Mmh. Et puis sur le parcours, nous avons 4 salles d'exposition temporaire, et dans l'une d'elles, on va vraiment faire de l'actualité et de la valorisation de notre fonds. Donc régulièrement, le musée proposera de sortir des objets de nos réserves. Nous avons une très belle exposition consacrée au cabinet de curiosité, et là nous avons pioché à 99,9% dans nos collections, et c'est vraiment, je dirais, dans cette salle qui retrace un cabinet de curiosité, vraiment c'est une sorte de feu d'artifice. Et un petit peu un extrait de ce que nous pouvons avoir en réserve.
Voilà, exposition temporaire donc sur Cabinet de Curiosité et Émile Guimet, Vex, donc votre musée qui va ouvrir demain au sud de Lyon, cet objet imposant, magnifique, entre le Rhône et la Saône, le musée des confluences. Et pour ceux qui souhaitent y aller, c'est 86 quai Perrache à Lyon, ce sera ouvert du mardi au dimanche. Toutes les infos évidemment sont en lien sur le site de la Tête au Carré. Nicolas Dupont, merci beaucoup, ainsi qu'à vous Antoine Louchard. Vous étiez nos deux Lyonnais cet après-midi dans le club des Têtes au Carré. Allez, on parle dans un instant d'un amateur de dictionnaire et puis d'un amoureux de la Nouvelle-Zélande. Ce sera dans un instant. Orchestral Manoeuvre in the Dark avec Enola Gay à l'instant dans notre club des Têtes au Carré. Jean Pruvot, Arnaud Guérin sont avec nous, un lexicologue d'un côté, un géologue de l'autre et un lexicologue à guitare. Ça c'est une surprise Jean Pruvot, moi je ne savais pas, on vous a reçu plusieurs fois dans la Tête au Carré, que vous aviez également cette passion et que vous étiez vraiment bon musicien.
Hein. Ah bon musicien, je ne sais pas.
On va en juger dans un instant.
Oui, je suis un peu inquiet, mais pour évoquer effectivement les mots de la musique, bon j'ai caché longtemps cette chose-là, ouais. Mais dernièrement j'ai voulu exprimer un petit peu ce que pouvaient être les mots de la musique, mais avec une guitare.
Bon, Arnaud Guérin, vous n'êtes pas joueur de quelque chose quand vous allez dans les contrées islandaises, par exemple, ou Nouvelle-Zélande.
Non, malheureusement, non. Juste du marteau de géologue qui peut sonner de temps en temps.
On peut l'utiliser aussi, absolument. Jean Pruvot, donc lexicologue, professeur de lexicologie et lexicographie à Cergy-Pontoise. Vous êtes également directeur éditorial des éditions Honoré Champion. Et donc, ce dico des dictionnaires, c'est un vrai cadeau quand même pour vous, hein, ces histoires et anecdotes. Donc chez Jean-Claude Lattès.
Oui, c'est une belle aventure parce que dans le fond, être au milieu de ces 10 000 dictionnaires et ne pas en donner, je dirais, la substantifique moelle ou en tout cas ce qu'il y a de plus agréable, de plus anecdotique, mais en même temps de plus sérieux, c'est une jolie synthèse à faire.
Ça doit être très compliqué quand même quand on a justement 10 000 dictionnaires autour de soi. Ça vous prend quasiment deux appartements.
Oui,
et
deux appartements.
On fait un livre de 300 pages après.
Et ça suppose, oui, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire, mais extraire l'essentiel, c'est en vérité, quand on a 10 000 dictionnaires, on a des familles. Hein, on reconnaît la famille du 19e, on reconnaît les familles des dictionnaires scientifiques, les familles de dictionnaires de prononciation, les familles de dictionnaires encyclopédiques. Et donc, bien connaître les préfaces, bien connaître ses amis, hein, vous parliez d'amoureux tout à l'heure, ou de conquête.
C'est vrai.
Après, on va chercher le bon dictionnaire. Quand je fais le champagne, par exemple, je ne vais pas ouvrir les 10 000 dictionnaires, mais je sais quel dictionnaire je vais ouvrir.
Ouais, donc, vous avez vous-même une bibliothèque dans la tête, apparemment. Hein,
j'ai le plan de ma bibliothèque voilà, bien dans la tête.
Qui est bien rangée.
Et je sais où retrouver mes cousins, voilà. Mes frères... Ouais. Les dictionnaires.
Ouais. Et vous aimez cet ordre aussi hein, dans les
oui,
choses.
Oui, les gens sont déçus quand ils viennent parfois parce que tout est bien rangé.
Oui, c'est vrai, on aimerait que ce soit le bazar.
Voilà, on aimerait un dicopathe vraiment fou.
Très atteint.
Voilà, mais je suis atteint, mais c'est rangé. Sur un dictionnaire aussi, d'une certaine façon.
C'est vrai. Alors, comment vous l'avez imaginé ce dico? Parce que dans ce choix qui se présentait à vous, l'idée, a fait que vous puissiez trier.
L'idée, c'était de prendre les thèmes essentiels de la langue française et de les offrir en l'aérant avec des anecdotes que j'ai vraiment rencontrées à travers, disons, une trentaine, une quarantaine d'années, et de pouvoir comme ça offrir, sans jargon, de manière simple, mais de manière sérieuse, et bien tout ce que la langue peut donner, qu'il s'agisse de la prononciation, qu'il s'agisse de l'orthographe, des québécismes, qu'il s'agisse encore, je ne sais pas, des régionalismes, du masculin-féminin, du passage du singulier au pluriel, toutes ces choses qui nous étonnent et qui, dans le fond, une fois rassemblées, puiser dans les dictionnaires qui sont des vrais témoignages, va nous permettre de mieux en parler. Et avec plaisir. Et c'est aussi le feuilleter comme on veut, dans n'importe quel sens.
Ouais.
Il y a une très belle table des matières, et si on s'intéresse au québécisme, on fonce à la lettre Q, et on trouvera québécisme et québada aussi.
C'est 500 pages, hein, donc ce dico
n'est pas très cher.
vous faites votre pub avant Noël, 23€ prix conseillé dans toutes les bonnes librairies. Justement, sur le choix des mots, c'est toujours un dictionnaire. Enfin, vous aimez partager ces mots, justement, vous, Jean Pruvot. Vos dictionnaires sont toujours ouverts. Hein.
Oui, c'est vrai que d'ailleurs, certains sont en mauvais état. Quand j'ai fait cette soirée musicale, je présentais le furetière, il est tombé, un petit morceau qui est tombé, mais l'important, c'est que le contenu reste. Et les offrir, les ouvrir aux amis, les ouvrir à ses enfants, c'est ça qui est vraiment merveilleux. Donc le livre est une sorte de cadeau, d'ouverture des dictionnaires.
Mmh. Arnaud Guérin ?
Non, j'allais dire, le dictionnaire, c'est presque un témoin que l'on passe
exactement.
De génération en génération.
Sauf que, est-ce qu'on n'est pas une limite là aujourd'hui, justement ?
On est dans un changement de support. On passe vers l'électronique, mais on aura toujours besoin de recueillir les informations. Donc, vous savez, on est parti du volumen qui faisait 15 mètres de long. On est passé au codex, c'est-à-dire l'ancêtre du classeur. Dans le fond, on arrive au support numérique, mais les lexicographes seront toujours là. Il faut bien expliquer le mieux possible les mots.
Ouais. Alors, vous aimez tellement les dictionnaires que vous les chantez aussi, Jean Pruvot.
Oui, ça fait partie.
C'est vous qui avez écrit cette petite chanson qu'on va entendre tout de suite.
Une dizaine de chansons, oui. Ouais. Et puis celle-là, c'est moi qui, effectivement...
Alors, je vous en prie, prenez votre guitare pour les auditeurs de notre club des Têtes au Carré. Et puis, on va vous entendre.
C'est une première.
Vous rendez compte, vous avez au moins 500 000 personnes qui vous entendent.
Mathieu me met la pression.
Voilà. Vous imaginez le nombre de Stade de France. Jean Pruvot au Stade de France. Voilà, pour vous. Dans sa chanson des dictionnaires. Allez-y, Jean.
La traduction.
Mmh.
Tout petit, bien précaire, je n'avais qu'un dictionnaire pour s'enfuir du vulgaire, de l'opinion grossière. Petit élémentaire, mais j'en étais fier, comme un religionnaire des dieux du dictionnaire. Puis du haut de sa chair vint l'universitaire, juché sur dictionnaire et bien savant glossaire. Journée des dictionnaires, tout le tour de la terre. Colloquons mes confrères, dissertons sans impair. À l'heure du rocking chair, à l'aune du grand-père, au coin du feu mes frères, buvons au dictionnaire. À mes amis Robert, la semeuse du grand-pierre, littrée puis furetière, l'académie princière. Il manque des couplets. Il y en
avait, ben oui, aussi, ça, mais... voilà, c'est pour le, bon, temps, le temps de la radio. Merci pour votre interprétation, Jean Pruvot, et ce dictionnaire qui est sous forme d'abécédaire, d'ailleurs.
Oui.
Ça, c'est une forme que vous aimez bien ?
Oui, parce que ça permet d'être mesuré, d'avoir, dans le fond, des articles qui soient cohérents, et puis de faire des liens entre les deux. C'est pour ça que la table des matières à la fin, oui, permet, contrairement au dictionnaire, permet de se repérer dans ce qu'on veut choisir.
De A comme alphabet, à Z comme zéroisé, ça veut dire quoi ?
À zéroiser, c'est réduire à rien. Alors, ce sont des néologismes. Il y a, par exemple, un article sur néologisme, les mots nouveaux. Donc, j'étais content de faire ce livre chez Lattès, parce que ça permettait un gros livre. Et, oui, et donc, bon, c'est quelque chose qui est toujours un peu repoussant quand on a un gros livre. En fait, non. Ça se cueillette, ça se cueille, ça se feuillette avec un grand plaisir. Ouais. Et ce cueilleté, finalement, c'est un néologisme.
Ben exactement, mais c'était très joli de vous l'entendre voilà, dire. La prononciation, justement, c'est ce que vous dites, c'est cette distance entre la forme écrite et la prononciation. Ça, c'est intéressant, justement.
Oui, alors, l'intérêt des dictionnaires, on le disait tout à l'heure, c'est d'être des témoignages. Donc, quand on lit la préface du dictionnaire de l'Académie française, la première édition, et qu'on lit que Claude se disait Glaude, qu'on disait un segret, on n'est pas étonné de dire un second, mais on disait un segret aussi. Et donc, il y a toute une série comme ça de prononciations qui ont beaucoup changé. Hein. On disait facilement une chouse, un foussé. Et Vaugelas en plein au XVIIe en disant qu'il faudrait peut-être transformer les choses. Et alors, il y a une anecdote qui est plaisante, c'est le roi Rouet. Vous savez, on prononçait Ouet. Et au moment de la Révolution, une vieille dame est prise à la Bastille et elle dit « il me faudrait un Rouet ». Et là, on se dit « c'est la guillotine, il ne faut pas de roi
bon. ». Ah oui, c'est fâcheux, effectivement. La mère de famille qui figure dans ce dictionnaire, je voulais en dire un mot parce que je sais que votre maman écoute La Tête au Carré, je la salue, je l'embrasse.
Merci.
C'est une fidèle.
Oui, les mères de famille, ils sont très présentes finalement pour acheter les dictionnaires aux enfants, pour leur proposer. Et souvent, les femmes ont joué un rôle énorme. Il y a un long article sur le mot femme, oui, pour montrer comment elles sont maltraitées au départ. Et à la fin, je dirais que chez Larousse, comme chez Robert, il n'y a presque plus que des femmes pour faire les dictionnaires. Ouais. Donc il y a une belle revanche.
Le québéquisme, par exemple, Jean Pruvot.
Alors, le québécisme, c'est quelque chose que je trouve délicieux parce qu'on ne se rend pas compte. Il y a d'un côté les mots, les faux frères.
Pas québéquisme, les québécisme,
ouais. Voilà. D'un côté, il y a les faux frères. Quand on dit, par exemple, qu'on va manger des bleuets, bon, il ne faut pas se tromper, c'est les myrtilles. Quand on dit qu'on a trois gosses, je n'ose même pas dire de quoi il s'agit.
Ah, les gosses, c'est connu,
oui,
ça,
c'est
au Québec,
connu sur les testicules.
Hein,
voilà. Bon. Écœurant, qui veut dire que c'est passionnant. Et puis, il y a tous ces mots délicieux, s'enfarger dans le tapis, un sous-marin, prendre un sous-marin,
c'est quoi,
un sandwich.
Prendre...
C'est un sandwich. Et puis, il y a des jolies formules, se déjeuner. On rentre chez soi, on se déjeune et on barre la porte. Mais le matin, on débarre la porte. Et puis, on peut mémérer ou placoter avec le voisin qui est de mauvaise humeur et qui est marabout, finalement. Alors, je rassemble tout ça et ça donne quelque chose de plaisant. Et en même temps, je raconte l'histoire du Québec aussi.
Et c'est le parfum de ce dico des dictionnaires. Donc, histoire et anecdote. Les prochaines journées se tiendront le 20 et 21 mars, d'ailleurs, ces journées du dictionnaire, à l'Assemblée nationale et à l'Alliance française. Et puis Jean Pruvot, vous proposez également le champagne dans cette collection que vous dirigez aux éditions Honoré Champion. Voilà. Vous restez avec nous dans un instant, on part en Nouvelle-Zélande, c'est pas mal non plus.
Ah, c'est formidable.
Allez, à tout de suite. Bless this house.
my pillow. Bless your pillow.
Le club carré sur France Inter.
Allez, dernier membre du club cet après-midi, Arnaud Guérin, géologue, photographe professionnel. Nouvelle-Zélande, voyage aux antipodes sauvages. Ça, c'est un livre donc, qui paraît aux éditions Glénat. Et vous faites donc des infidélités à l'Islande, Arnaud Guérin.
Oui.
Parce qu'on a toujours parlé de l'Islande ensemble. Et je découvre que vous êtes aussi un pied chez les Néo-Zélandais.
Exactement. Là, je suis parti aux antipodes. Je suis parti prendre le chaud en plein hiver.
Ouais.
Et donc, je suis parti de l'univers austral, de l'univers boréal à l'univers austral. Peut-être pour suivre les aurores, qui est un phénomène qui me passionne aussi.
C'est vrai.
Et qu'on peut voir de manière simultanée dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Donc, sauf qu'en Nouvelle-Zélande, on est encore un petit peu trop haut. Mais je suis allé jusqu'à Stewart Island, qui est le dernier village avant l'Antarctique. Et j'y suis allé pour la biodiversité et j'ai rencontré tellement de choses qui m'ont chamboulé en tant que naturaliste et en tant que photographe que j'ai décidé de faire un livre. Et à chaque fois, on met le doigt dans un engrenage quand on découvre un pays comme celui-là.
Ouais.
Et on a juste une envie, c'est d'y retourner. Et puis, on commence son travail d'auteur. On commence à coucher les premiers textes. Et puis voilà, le virus est pris. Je crois que c'est une affaire de virus, comme vous le disiez tout à l'heure, pour les dictionnaires.
Voilà, Jean Prouveau, qui est d'ailleurs le nez dans ces dictionnaires, pendant qu'on parle de Nouvelle-Zélande. Je suis sûr qu'il cherche un truc sur la Nouvelle-Zélande, non,
Jean ? Oui, c'est-à-dire, je crois que Zélande, ça veut dire Zé, la mer, et Land, le pays de la mer. Mais il faudrait que je vérifie.
Bon, ouais, visiblement, ça doit être à peu près ça, parce que la Nouvelle-Zélande a été découverte par un Hollandais qui s'appelle Abel Tasman, et donc arrivé là et qui a nommé les lieux découverts en fonction de son territoire d'origine.
Ouais. Alors, on peut parler des Néo-Zélandais ou des Kiwis aussi, c'est ça ?
Oui, on fait un parallèle, non pas avec le fruit qu'on connaît tous, mais avec l'oiseau, puisque la Nouvelle-Zélande a ce site particulier, c'est que c'est la terre des oiseaux, comme on le disait tout à l'heure, et en particulier des oiseaux marcheurs. C'est même la terre qui a connu le plus grand des oiseaux marcheurs qu'on ait connu sur la planète, qui s'appelle le moa, qui était là quand, quand les Maoris sont arrivés au XIIe siècle.
Il ressemblait à quoi ?
Alors, vous voyez une espèce de d'autruche, mais 3,60 m, 3,80 m de haut.
Ah oui.
Donc, vous imaginez tout de suite l'intérêt pour la chasse, pour ces Maoris qui sont arrivés là et qui sont arrivés sur leur grande pirogue. C'est vraiment un mythe fondateur. Ils arrivent sur cette terre et ils vont rencontrer donc ces oiseaux et cette nature qui est complètement incroyable. Ils vont même découvrir des choses qui les surprennent complètement puisqu'ils ont une culture qui est très liée aux palmiers. Et ils vont trouver un palmier, le seul, qui s'appelle le palmier Nico, qui est le palmier le plus austral de la planète, mais qui, malheureusement pour eux, ne fait pas de fruits. Donc pas de noix de coco. Et donc, à chaque fois, voilà, c'est un pays plein de surprises. Vous êtes complètement déboussolé, pas uniquement en termes géographiques, au niveau de la vie de la Terre, au niveau de la biodiversité. C'est un pays...
Il y a beaucoup de similitudes avec l'Islande, d'ailleurs, hein.
Alors, il y a beaucoup de similitudes, particulièrement dans l'île du Nord, puisqu'elle est 100% volcanique ou quasiment. Là où on change d'échelle, c'est les échelles des éruptions volcaniques. Puisque la Nouvelle-Zélande est l'endroit au monde qui concentre le plus de supervolcans, appelle les supervolcans. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 26 500 ans, il y a la plus grande éruption des 26 000 dernières années. C'est 1150 km3 de magma. Pour vous donner un ordre d'idée, le Mont Sainte-Hélène, c'était 3 km3 de magma. Wow. Donc ça veut dire qu'on est sur des cataclysmes extraordinaires. Et ce même volcan qui s'appelle Taupo, qui est aujourd'hui un lac où il y a une petite bourgade qui est juste sur le bord de ce lac, a donné la plus grosse éruption des 5000 dernières années avec 150 km3 de magma. Donc ça veut dire qu'on est sur la ceinture de feu du Pacifique, dans un environnement qui est un environnement tellurique, au sens premier du terme.
Ouais. Et justement, Jean Pruvot, volcan, ça fait partie des tout premiers mots de votre dictionnaire dans l'alphabet.
Oui, parce que c'est vulcanus, hein, justement, donc ça, c'est passé par l'espagnol d'abord, volcan, mais évidemment au tout départ c'est le latin vulcanus, et qui a été repris, et vulcan, on le sait, était au fond, et c'était le forgeron, et évidemment quand il se fâchait...
Il suffit d'aller dans l'antre de Vulcain à Vulcano dans les îles éoliennes en Sicile.
Alors en tout cas là, en Nouvelle-Zélande, il y a des phénomènes très puissants. Effectivement, on sent que les échelles sont complètement explosées là-bas. Avec vous parlez de ces volcans géants par exemple, les phénomènes hydrothermaux également sont exceptionnels. Hein.
Alors là, on peut parler de palette de couleurs. Vous le découvrirez dans le livre. Ouais. J'ai mis ces images justement pour refléter la diversité, parce que quand on est photographe et scientifique, il est difficile de pouvoir refléter cette diversité dans un seul livre. On est obligé de faire des choix, comme vous le disiez tout à l'heure. Et donc là, j'ai choisi de faire des choix entre le minéral et le biologique.
Mais c'est intéressant parce qu'on parlait des origines de la vie tout à l'heure avec Mars. Mais là, on y est. Au fond, on se dit, tiens, c'était peut-être ça, au fond, le tout début dans ces sources d'eau chaude.
Exactement.
Avec toutes ces bactéries.
Ces extrémophiles. Qui sont des bactéries, des formes de vie très primitives, mais qui vivent dans des environnements acides et chauds. Et puis en plus, en tant qu'être humain qui regarde ça, on regarde les origines il y a 3,5 milliards d'années. Ouais. Mais en plus, c'est d'une beauté absolument sublime. Ouais. Vous avez,
Donc ça, c'est les vraies couleurs, hein, ce qu'on voit en photo ici. Vous pouvez nous décrire en deux mots, Arnaud Guérin.
Alors, on est dans une palette qui va du jaune fluorescent avec des sources. On a simplement l'impression qu'on a colorisé l'image, jusqu'au noir le plus profond. Profond d'hydrocarbures, de surnageants d'hydrocarbures, avec toujours le lien entre tout ça, ce sont les argiles qui sont peut-être les roches les plus fantastiques de la planète.
Là, c'est magnifique aussi, les photos d'argile sont extraordinaires.
Ouais. Voilà, ce sont des... Alors, je pourrais passer ma vie à faire des photos de bulles de boue. Simplement, il y a ce côté... il manque le son, hein. Il manque l'odeur. On est très frustré quand on est photographe. On est vraiment aux origines du monde, comme on l'est à chaque fois sur les volcans.
On est à quelle température, là, quand on voit, par exemple, ces bulles d'argile
Là, ces bulles qui peuvent, pour les plus grosses, faire entre 2 et 3 mètres de diamètre. On est à une température de 90 degrés, entre 90 et 100 degrés. Et puis, les sources chaudes, au-delà de 100 degrés.
Ouais. Quelle différence entre les trois îles, justement, qui forment la Nouvelle-Zélande
Donc, île du Nord, 100% volcanique. Île du Sud, Nous sommes dans le territoire des Alpes de Nouvelle-Zélande. C'est la chaîne de montagnes qui pousse le plus vite au monde, entre 1 et 3 cm par an. Donc là, quand on parle de tectonique, on est vraiment dans la genèse même du relief. D'ailleurs, cette chaîne de montagnes, elle coupe le flux des dépressions qui vient de la mer de Tasmanie, ce qui donne les plus importantes précipitations de la planète, oui. Entre 11 et 12 mètres de précipitations cumulées par an. Donc ça donne un milieu de forêt humide unique. Et puis la dernière île, Stewart Island, au-delà des 50e, enfin entre les 40e rugissant et les 50e hurlant, c'est vraiment un
pays voyageur. Alors il faut y aller là, parce que la mer doit être terrible quand même. C'est totalement démonté quand on veut faire la traversée.
Le détroit de Fovo, il faut plutôt être marin dans le texte. surtout qu'on le traverse à 26-27 nœuds avec un catamaran à la néo-zélandaise et qu'on arrive là dans un petit village qui s'appelle Oban. Donc on a l'impression d'arriver en Écosse.
Ouais.
Et là, la surprise, c'est d'être suivi par la patrouille. Et la patrouille, ce sont les plus grands oiseaux de mer de la planète, qu'on appelle les albatros, jusqu'à 3,60 m d'envergure.
Voilà, pareil, même les oiseaux ont vraiment... Alors, il faut dire qu'ils sont tranquilles là-bas, puisque vous le disiez tout à l'heure, ils ont occupé la niche qui n'était pas prise par les mammifères terrestres.
Exactement, donc on a tous ces oiseaux marcheurs, et Stewart Island est un des seuls endroits au monde, on peut même voir ces kiwis qui sont normalement nocturnes, on peut les voir en plein jour. Oui. C'est une chance. Et puis, l'émotion vraiment suprême là-dedans, ce sont vraiment les albatros. Oui. Parce que quand on les a dans le viseur de l'appareil photo, on part avec son éco-guide le matin en bateau. Et là, vous avez un oiseau qui approche du bateau et vous dézoomez. Et d'un seul coup, c'est simplement la dimension d'un ULM. Et ces oiseaux sont des indicateurs extraordinaires pour les biologistes qui travaillent sur cet océan antarctique et sur le réchauffement climatique, etc. Donc, au-delà du visuel, c'est un véritable territoire de science.
À chaque mot que vous prononcez, Arnaud Guérin, Jean Pruvot se jette sur son ordinateur pour aller chercher un mot, mais c'est extraordinaire quand même. Et là,
oui,
vous étiez sur l'albatros.
Kiwi, c'est merveilleux. Il y a albatros aussi. Ouais. Kiwi, c'était kiwi en fait. Et donc c'est les Maoris qui ont lancé ce mot-là. Donc ça, je trouve que c'est joli parce que c'est une onomatopée. Et albatros, on a dedans albus, qui veut dire blanc, hein, qu'on retrouve dans Alpes, albumen, etc. C'était l'oiseau blanc par excellence. Je ne connaissais pas pareil envergure. Et puis c'est sans doute une altération aussi d'Alcatraz. Qui voulait dire donc pélican aussi. Donc, ouais. Une jolie histoire de mots. Hein.
Voilà, il faut toujours avoir son Jean Prévost avec soi pour justement faire une bonne émission et compléter les propos des invités. Voilà, ça s'appelle Nouvelle-Zélande, voyage aux antipodes sauvages. C'est un livre de photos hein, magnifique.
Et de textes.
Et de textes publiés aux éditions Glénat. Et c'est une bonne idée de cadeau pour Noël pour ceux qui rêvent de ce territoire tout à fait à part. Merci beaucoup à tous les deux. Bonne fête de fin d'année.
Merci.
La semaine prochaine, c'est Daniel Fievé qui sera aux commandes de La Tête au Carré. Le dico des dictionnaires Jean Pruvot chez Jean-Claude Lattès. Merci à Sandrine Laurent et Raphaël Rousseau. Et puis dans un instant, ce sera le procès et l'acquittement de Pierre Goldman dans Affaires sensibles avec Fabrice Drouel.